La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est né le 19 février 1896, mais se trouvait peu satisfait de son improbable jour de naissance. Il l'avança donc d'une journée, passant au passage du signe du poisson à celui du taureau et rendant ainsi hommage à la première femme qui lui avait fait découvrir l'amour. Elle-même née un 18 février, comme nous l'a raconté lundi son biographe Henri Béard au cours d'une émission à retrouver en podcast. Hier, nous nous sommes arrêtés plus spécialement sur l'histoire du mouvement surréaliste inventé par André Breton et qui est aussi une philosophie de vie. Nous étions pour ce faire en compagnie de Jacqueline Chaigneux-Gendron. Enfin, demain, c'est du livre Nadja dont il sera question avec la psychanalyste Christiane Lacote-Détriba en première partie, puis avec le romancier Serge Filippini, auteur du livre J'aimerais André Breton. C'est un roman et c'est aux éditions Phébus. Et aujourd'hui ? On me dit dans mon oreillette que, en réalité, André Breton était passé du signe du poisson à celui du Verseau. Comme quoi, l'astrologie n'est pas mon fort, contrairement à André Breton. Nous en parlerons aujourd'hui, car aujourd'hui, pour parler des écrits sur l'art d'André Breton, l'astrologie y est très importante. Nous sommes avec Étienne-Alain Hubert. Il a dirigé les volumes 3 et 4 de ses œuvres complètes dans la Pléiade. Le volume 4 rassemblant justement les écrits sur l'art. Il a également édité et présenté les lettres de Breton à Jacques Doucet dans la collection Blanche chez Gallimard toujours. C'était en 2017. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Si vous prenez Miro, qui sans doute est le plus grand des peintres surréalistes, Max Ernst, Tweyen, André Masson, Victor Bronner, eh bien ce sont des hommes totalement différents et qui n'auraient été unis par rien s'ils n'avaient pas fait connaissance de cette sorte de mage qu'était André Breton et s'ils n'avaient pas été invités aux réunions que donnait André Breton dans des cafés généralement.
Archives de l'écrivain André-Pierre de Mandiargue évoquant l'importance de Breton dans la réunion de tous ces peintres si importants du XXe siècle. Bonjour Étienne-Alain Hubert.
Bonjour.
Il y avait donc chez Breton un grand éclectisme, une grande curiosité en matière artistique. Tout ce qui relève de l'art, là, tout de suite et très tôt, beaucoup intéressé.
Alors, vous savez, c'est assez étonnant parce que Breton n'a pas connu les peintres comme Jacob, comme Reverdy, qui ont fréquenté les ateliers des peintres cubistes, en quelque sorte, dès leurs 20 ans. Mais il est passé, c'est assez significatif, par une revue littéraire qui était les Soirées de Paris d'Apollinaire, dans laquelle il a découvert, très jeune, les reproductions d'un certain nombre de tableaux cubistes ou d'apparentés cubistes en noir et blanc. Et je me demande, enfin c'est peut-être une supposition un peu facile, mais si cette vision de la peinture en noir et blanc ne l'a pas profondément marqué, puisque, remarque banale, il y a très peu d'attention à la couleur dans ses écrits. Mm-hmm. Il parle peut-être une fois, à propos du cubisme, des grandes compositions blondes de Braque, pour évoquer le Braque mystérieux attachant des années 1910-1912. Mais si vous feuilletez le surréalisme et la peinture, vous verrez que la couleur n'est pas mentionnée. Voit le monde en noir et blanc.
Ce que ça peut vouloir dire aussi, Étienne-Alain Hubert, c'est que Breton n'était pas réellement un critique d'art, comme on peut l'entendre habituellement.
Ah, ça, vous avez tout à fait raison, puisque le mot critique d'art est complètement étranger à son horizon. Un critique d'art qui classe, qui s'attache à l'actualité, qui classe selon école, qui cherche les influences, c'est un langage qu'il refuse délibérément, dans lequel il n'est jamais entré. Peut-être le seul épisode de son existence où il a fait, où il a employé, utilisé le langage de l'historien d'art ou du critique d'art. Alors c'est un épisode d'ailleurs qui est secondaire dans sa maturation. C'est en 1945 quand il fait des conférences à Haïti, des conférences qu'il a obtenues auprès de, grâce à son ami attaché culturel à Haïti, Pierre Babille, et où il va faire des grandes conférences sur le cubisme, sur l'art moderne, etc. Et là d'ailleurs il se documente, il cite entre guillemets des ouvrages de critique d'art. Mais c'est un point de vue pédagogique en quelque sorte qu'il n'a jamais eu avant et qu'il n'aura plus par la suite.
Alors s'il ne mentionne pas la couleur, en revanche il mentionne beaucoup la lumière, peut-être que ça l'intéresse davantage.
Alors vous avez tout à fait raison, la lumière, le mot lumière d'ailleurs est un mot qui revient très souvent dans le surréalisme et la peinture, par exemple à propos de Duchamp, à propos du cubisme, à propos de ces facettes que peuvent présenter les apparences pour l'œil du peintre et qui composent quelque chose d'éblouissant et en même temps parfois de désorientant.
Mmh. Oui. S'il n'est pas un critique d'art, qu'est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est simplement un amoureux de l'art ? Est-ce qu'il est un poète quand il regarde les œuvres d'art ?
Alors vous êtes, en employant le mot poète, vous êtes sans doute très près de la vérité. Il a, c'est compliqué à dire, c'est un peu difficile à imaginer aujourd'hui, mais pour lui, la peinture moderne, c'est lié à des bouleversements intérieurs, des bouleversements qui appartiennent à son existentiel en quelque sorte, de même que certaines lectures appartiennent à son existence. Il y a la révélation de Rimbaud, par exemple, la révélation de Freud, la révélation de Lautréamont en 1919, des poésies, enfin, du 18h du 15 en 1919, ce sont des événements qui, de lecture ou de contemplation, qui sont en quelque sorte des événements intimes. Et on va de bouleversement en tressaillement ou de tressaillement en éblouissement. C'est un vocabulaire, une vision toujours très affective.
Et c'est un petit peu comme ça que vous avez travaillé aussi, Étienne Alain Hubert, quand vous avez édité le quatrième volume et le troisième, vous avez fait les deux, mais le quatrième volume de la Pléiade est spécifiquement dédié aux écrits sur l'art, et vous avez travaillé directement chez André Breton sur son bureau, donc d'une manière oui. Également très affective.
Oui, enfin, sur son bureau, c'était un des supports pour mes malheureux cahiers de notes. Mais il faut revenir un peu sur ces histoires de la Pléiade. Mon admirable amie Marguerite Bonnet, en 1984, me demande de collaborer.
Les deux premiers volumes.
Est-ce qu'elle avait fait ce livre, absolument de référence, qui s'appelle André Breton et l'aventure surréaliste, livre aujourd'hui qu'on ne cite plus beaucoup, mais qu'on utilise apparemment, en revanche, très fréquemment. Et c'est ainsi que je me suis trouvé embarqué à ses côtés dans cette aventure de la Pléiade. Elle-même avait connu Breton et elle était proche d'Elisa Breton. C'est elle qui m'a amené un jour d'octobre ou novembre 1984 chez Elisa et entre Elisa et moi, comme avec tous ses hôtes, quelque chose s'est passé. C'est une femme qui avait un très beau regard, un peu voilé, qui avait une intensité dans la présence qui m'a infiniment touché. Et j'ai travaillé, elle nous recevait tous les lundis soirs, enfin, on arrivait vers 4 heures, je crois me rappeler, ou vers 4 heures, ou même vers 3 heures et demie, et elle nous recevait dans ses ateliers, et nous avions droit, évidemment, à consulter la bibliothèque, les livres qui avaient été annotés, que Breton avait parfois truffés de petits papiers, de petites notes, et évidemment, l'atmosphère de cet atelier du 42 rue Fontaine était absolument magique, hein. Et on était sous le regard de certaines de ces grandes divinités océaniennes, du grand Tully notamment, qui était au bout de la table, et qui le soir, dans cet intérieur qui était fort peu éclairé, parce qu'Elisa, pour des raisons de prudence, ne voulait pas que de l'extérieur, le soir, on pût apercevoir les tableaux qui étaient au mur. Alors les ampoules de 45 watts ne fournissaient pas un éclairage très, très généreux, et cela prenait encore plus d'une atmosphère de fantastique et inquiétante, et en même temps envoûtante.
Quand même.
C'était merveilleux. Aussi. Et alors, dans l'atelier, il y avait non seulement tous ces objets, tous ces souvenirs qui étaient accrochés au mur. Breton, à la fin de sa vie, d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'ait pas pu le faire, avait une commande de la part de l'éditeur Skira pour faire un livre qui aurait été consacré en quelque sorte à sa chambre, voyage autour de ma chambre, des voyages autour de ma chambre moderne. Il aurait évoqué un certain nombre d'objets qui l'avaient particulièrement frappé. Et c'est parmi ces objets qui lui étaient chers que nous avions le privilège irremplaçable de passer quelques heures.
Mais ce voyage autour de sa chambre, on peut un petit peu le faire si on va au Centre Pompidou à Paris, qui a acheté quasiment tout un pan de mur, c'est ça ?
C'est ça, vous avez fait raison, le mur a été reconstitué, mais forcément, dans cette reconstitution de musée, il n'y a plus la magie qui s'attachait à ce lieu un peu obscur,
le Centre Pompidou.
Ce lieu dans lequel on se trouvait tout à fait à l'écart de la... arraché à la vie courante.
Voilà. Alors, dans le premier volume, il faut dire aussi qu'il y a des images. C'est la première fois que la bibliothèque de la Pléiade acceptait de mettre des images dans cette collection-là. Mais c'est très important parce que, pour Breton, la description était ennuyeuse et il valait mieux insérer directement des photographies. Quel était son rapport à la description, Étienne Alain Huber ?
Écoutez, son rapport à la description, il est très net. Dans le Manifeste du Surréalisme, il évoque la description d'une chambre dans un roman de Dostoïevski et il dit que ça n'a aucun intérêt, qu'il refuse d'entrer dans cette chambre. Et c'est cette mise en question de la description était venue par, évidemment, un être qu'il avait eu le privilège de connaître et qui a joué un rôle intellectuel presque sensible sur lui, un rôle qu'il ne faut pas oublier, c'est Paul Valéry. Paul Valéry était l'adversaire, vous le savez, de la description, comme il était l'adversaire du roman. Et on ne peut jamais comprendre, enfin, certaines de ces aversions profondément enracinées chez Breton, si on ne se réfère pas à ces leçons qu'il n'a jamais oubliées, qu'il avait reçues de Paul Valéry.
Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin. Avec dédain.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors le tome 3 des œuvres complètes dont vous vous êtes occupé, Étienne Alain Huber, correspond à la période de l'exil à New York. C'est une période qui est difficile pour Breton, période aussi durant laquelle sa femme Jacqueline Lamba va le quitter pour le sculpteur américain David Hare. Mais du point de vue de ses rapports avec les artistes, on peut dire que c'est une période au contraire extrêmement féconde.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'il va se trouver le voisin, le commensal... de cette petite colonie d'artistes et d'écrivains français qui se retrouvent à New York dans une proximité tout à fait intime, tout à fait enrichissante pour les uns comme pour les autres, quelles que soient les difficultés de la vie, les angoisses de l'heure, les concessions que Breton doit faire aux nécessités de l'existence.
C'est-à-dire travailler pour la radio.
Travailler pour la radio. Et puis... évidemment, ce sentiment d'être profondément étranger à la vie américaine. Vous savez que le seul moment inoubliable de cette période américaine, ce sera le voyage chez les Indiens.
Oui,
dans
ces
vacances qui s'est offert chez les Indiens.
Qu'il considère comme un Éden, finalement.
Qu'il considère comme un Éden, et dans lequel il va avoir la révélation. Éden, d'ailleurs, dont il a fait une découverte très préparée, très documentée. On ne se rend pas compte que Breton était un homme des livres, un homme du travail en bibliothèque, parfois, et de la documentation pour ce voyage chez les Indiens, Hopi. Il avait lu, feuilleté des quantités d'ouvrages qu'on lui avait prêtés, ou bien qu'il était allé voir, je crois, à la bibliothèque publique de New York.
Alors parmi ses amis peintres, on trouve Yves Tanguy, Max Ernst, qui sont à New York. Et puis on trouve peut-être, d'abord et avant tout, Marcel Duchamp. C'est l'admirable ami, comme vous l'appelez, l'ami essentiel.
L'admirable ami, c'était l'ami essentiel. Breton a toujours un très grand respect pour Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, vous savez, on dit selon une formule un peu facile, c'est le peintre qui n'a pas d'œuvre. C'est l'artiste qui n'a pas d'œuvre. mais qui a des idées.
Il y a quand même le nu descendant l'escalier, par exemple.
Il y a le nu descendant l'escalier qui est une chose admirable. J'ai eu la chance de voir à Paris il y a quelques années. Mais il n'y a pas de grande œuvre de Marcel Duchamp. Il n'y a pas le catalogue de l'œuvre de Marcel Duchamp est tient dans un gros volume, in quarto. Mais Duchamp était sans doute sans cesse pour lui une sorte d'éveilleur d'idées, de juge parfois. Et puis, c'est Duchamp qui était le moteur principal des expositions que Breton a pu organiser. Mmh. Il se référait toujours à Breton, à Duchamp, pour les différentes expositions.
Alors, sa conception de l'art à cette époque, et probablement depuis toujours, c'est en rapport avec la liberté qu'il faut le comprendre. L'art politique, par exemple, pour lui, ne doit pas avoir cours. L'art doit-il être uniquement de l'art pour l'art, pour Breton, selon vous, Étienne Alain Hubert?
Je crois que la notion de l'art pour l'art n'aurait pas eu beaucoup de sens à ses yeux. Ce qui se passe, c'est que l'art, d'une part, bon, nourrit son existence, est associé à toutes sortes d'émotions, d'expériences, d'approfondissements. Mais l'art n'est jamais considéré comme un décor agréable. Il y a toujours un rapport profond qui doit exister, et exister entre le sujet regardant et l'art. C'est pas comme il l'a dit, enfin, devant l'œil existe à l'état sauvage, c'est-à-dire que devant l'art, nous retrouvons en quelque sorte un point de vue qui est antérieur au langage, parce que l'œil existe à l'état sauvage, ça veut dire que le langage n'existe pas beaucoup à l'état sauvage, mais l'œil, il y a une sorte d'antériorité de l'œil sur l'expression écrite. Et alors, on se rend compte d'ailleurs, une petite parenthèse, dans ces formules de Breton, il y a comme toujours des tas de lectures, de réflexions. Et Breton, comme Éluard d'ailleurs, avait lu avec passion un livre qui s'appelait « Le langage » d'un grand linguiste qui s'appelait Vandriès. Et il a transposé en quelque sorte sur le domaine, dans ses premières pages du surréalisme et la peinture, ce que Vandriès avait pu échafauder d'un langage affectif, d'un langage premier. Et il y a en quelque sorte une vision affective, une vision première qui est antérieure à la construction de l'image.
Et justement, comment s'articule le cérébral qui semble évident chez Breton, oui, avec l'affectif dont on nous parle beaucoup, oui, aussi depuis le début de cette semaine. Oui. On souligne beaucoup le côté très émotif, oui, très affectif de Breton. Oui.
Vous avez raison, mais c'est probablement une des caractéristiques du personnage, c'est d'unir une certaine intellectualité, mais allons plus loin que le cérébral, une certaine intellectualité et en même temps une perméabilité aux commotions que le monde extérieur ou que les aventures de la conscience peuvent valoir à l'individu.
Il ne faut pas oublier que sans Breton, sans le surréalisme, il y a des tas de choses qui aujourd'hui, pour nous, sont devenues complètement naturelles. Mais sans eux, on n'aurait pas vu l'art des fous. On n'aurait pas vu l'art sauvage comme on le voit aujourd'hui. On n'aurait pas regardé les objets trouvés. On n'aurait pas regardé les objets de la même façon. On n'aurait pas regardé la rue. On n'aurait pas regardé. On n'aurait pas prêté attention aux actes manqués. On n'aurait pas prêté attention aux rêves de la même façon. On se serait pas interrogé de la même façon sur le hasard, comme certains le font aujourd'hui. Et si on doit tant de découvertes sensibles à Breton, c'est qu'il est le seul, au XXe siècle, à avoir porté si haut et si loin cette conscience de la poésie. C'est-à-dire en redonnant à chaque être, à chaque objet, à chaque instant, en lui redonnant ce qu'il a d'unique en lui, et du même coup en lui redonnant en quelque sorte son innocence première. Breton, comme tous les grands poètes, mais peut-être plus que les autres, nous redonne ce qui est tout près de nous, nous le redonne dans son innocence première. Et je crois que c'est ça, le merveilleux, dont Breton nous a fait cadeau.
Que vous inspire cette archive que nous venons d'entendre, Dany Lebrun, Étienne Alain Hubert.
Vous faites grand plaisir en permettant aux auditeurs d'entendre la voix passionnée, la voix ardente de notre amie Dany Lebrun. J'aime beaucoup notamment les Cessa dont elle ponctue son discours familier du reste et qui exprime bien cette conviction de cette cet être qui a toujours une admirable présence au monde, une présence vigilante. Et cela fait du bien de l'entendre.
Et une présence qui a changé, dit-elle, notre regard, à la fois sur la poésie et sur les arts. On ne regarde pas une œuvre d'art aujourd'hui comme on l'aurait regardé s'il n'y avait pas eu André Breton.
Je crois que vous avez absolument raison. Enfin, Annie le dit beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas son éloquence ni ses capacités d'analyse. Mais c'est vrai qu'il a profondément modifié, avec parfois évidemment des dérives incroyables, et modifié le regard sur la peinture, sur l'art primitif, etc.
À quelle dérive pensez-vous ?
Il y a eu bien sûr des exploitations commerciales. Enfin, Annie Lebrun est parfaitement et a été une grande dénonciatrice, notamment dans son dernier opuscule, c'est pas sur la beauté de ces errements de notre époque. Mais enfin, nous n'allons pas ici faire une plainte conjuguée avec elle.
Alors, donc, si André Breton a changé le regard que nous avons aujourd'hui sur l'art, n'avez-vous pas le sentiment qu'il s'est, à un moment donné, arrêté et qu'il n'a pas compris toute l'évolution des arts plastiques ? Quels sont finalement les angles morts d'André Breton ?
C'est une bonne question, mais vous savez, il y a toujours eu des angles morts chez André Breton. Bon, puisque j'ai beaucoup travaillé sur Verdi, sur Apollinaire, le cubisme est pour moi un domaine dont je ne suis pas spécialiste, bien sûr, mais dans lequel j'aime à me promener, que j'aime à explorer. Breton a toujours été hostile au cubisme. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'ait pas aimé les peintres cubistes, ni qu'il n'ait pas aimé les tableaux cubistes. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il les a collectionnés. Il a eu d'admirables choses dans sa collection, dont évidemment les difficultés des temps et puis la nécessité de gagner sa vie l'ont amené à se séparer. Mais ce qui est très frappant, c'est que Breton, dans le cubisme, ne voit évidemment pas ce que voyait Reverdy, ce que voyait Max Jacob, ce que voyait Apollinaire dans ses paroles oraculaires, qui parfois d'ailleurs étaient très aventureuses. Et en revanche, il est retenu par des singularités, par des présences. Et c'est très étonnant, par exemple, que quand il songe au tableau cubiste, ces tableaux dont il a la première révélation dans ses reproductions, ses mauvaises reproductions des soirées de Paris d'Apollinaire, il est hanté par des créatures anthropomorphes. Il est hanté par, ou bien par des créatures d'ailleurs, de véritables créatures, comme ce fameux chevalier Ixte de Derain, qu'il découvre dans les soirées de Paris, qui est une sorte de personnage élégant, nonchalant, une sorte d'incarnation, il faut bien le dire aussi, de Jacques Vacher. Cette attitude d'humour détaché dans la vie, c'est le chevalier X lui correspond.
Son ami dont on a parlé dans l'émission de lundi, voilà, qui est mort très jeune.
Voilà. Et alors, dans Nadja, par exemple, l'évocation du tableau, d'un tableau de Braque, le joueur de clarinette de Braque. Et ce qui l'intéresse, c'est d'une part une créature d'une élégance fabuleuse, pour parodier Rimbaud, qui apparaît à travers cette composition très complexe, mais aussi des détails tout à fait singuliers. Par exemple, Nadja s'étonne comme lui d'un morceau de corde qui est dans un coin du tableau. En fait, c'est un morceau de corde, un objet en forme de corde, qui correspond probablement à la transformation d'une cordelière de rideau, mais qui, dans la construction évidemment très intellectuelle de Braque, et en même temps qu'esthétique, va à un rôle déterminant. Mais Breton, il découvre un détail intriguant, détail surprenant. Et c'est souvent ce détail surprenant qui va l'arrêter au profit, évidemment, de ce qu'il pouvait avoir dans les dessins de Braque. Breton ne s'intéresse pas au projet du peintre. Il s'intéresse à l'œuvre réalisée, et à l'œuvre réalisée avec toutes ces capacités de surprise.
Alors, s'il n'aime pas le cubisme, on peut dire que c'est le cubisme de Braque qu'il n'aime pas, parce que Braque s'arrête finalement au cubisme, alors que Picasso le dépasse très largement.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Est-ce que ça n'est pas justement la recherche sans cesse de la nouveauté et du dépassement qu'il apprécie chez Picasso, et qui fait qu'il peut, je pense, aimer le cubisme de Picasso ?
Alors, dans le surréalisme et la peinture, dans la première partie, qui est évidemment pour nous la partie la plus attachante, la plus passionnante, vous savez que les pages sur Braque sont particulièrement dures. Cet homme avait aimé trop les choses, aimait trop le réel. Et naturellement, si Breton pouvait être profondément bouleversé par les créations de Braque de la grande époque du cubisme, il ne pouvait pas être sensible à cette maturation lente, obstinée, très féconde, que Braque a poursuivi dans son coin, si je puis dire, dans les années 20, 23, 25, et il n'a pas accompagné un instant cette réflexion de Braque à la poursuite de quelque chose qui n'était souvent pas exprimé par le peintre. Alors, en revanche, chez Picasso, il a le sentiment d'une redécouverte, d'une remise en question perpétuelle, et Picasso lui fait du bien de ce point de vue-là, parce que tout être, évidemment, Breton en a conscience plus qu'autrefois, plus que tout autre, tout être est hanté par la solidification, par l'immobilité, par le dessèchement intérieur. Et avec Picasso, il découvre un être qui se met en question.
Et un être qui a une préscience, je cite, d'une unité mystérieuse des êtres et des choses située au-delà du visible. Oui. C'est quelque chose qui peut rappeler les idées des surréalistes, en effet.
Oui, c'est ça. Il redéfinit à Picasso, naturellement, parfois en lui faisant subir quelques torsions au dessin de Picasso, à la réalité même de l'œuvre, mais il aurait défini. Et alors, on voit Picasso ainsi accompagner, si je puis dire, la maturation des idées politiques de Breton. Dans les années 32-33, Picasso devient un peintre révolutionnaire, et on sait combien Picasso, d'ailleurs, s'acharnait parfois dans le privé, parfois méchamment, à démentir les interprétations, les commentaires comme de son œuvre. Breton n'en a pas été, semble-t-il, victime. Mais Picasso est réécrit en vers les années 33-34 à la lumière du matérialisme historique, par exemple, il est évident que... Alors Breton écrit des pages inspirées sur le sujet, mais en quelque sorte, Picasso devient un peintre révolutionnaire parce que la révolution, c'est de redéfinir, c'est de recréer le réel, selon des mots célèbres.
Il y a des surréalistes qui font de la peinture. Il y a des surréalistes qui écrivent des poèmes. Il y a des surréalistes qui pourraient être Vanier ou Forgeron. Nous nous déclassions volontairement.
C'est-à-dire, avant d'être peintre ou poète ou forgeron, vous étiez d'abord surréaliste.
Mais au fond, justement, le secret, c'est la poésie avant toute chose. La poésie étant d'ailleurs absolument liée à l'idée d'amour.
Une archive d'André Masson. Mmh. Alors Étienne, Alain Hubert, qu'est-ce que c'est la peinture surréaliste? On voit bien ce que c'est depuis lundi qu'on essaie de creuser cette question. L'écriture, l'univers surréaliste, mais comment ça s'applique à la peinture? Parce que, pour prendre un exemple, on voit bien ce que peut être l'écriture automatique. On se demande un peu ce que c'est que la peinture automatique.
Écoutez, je crois que dans un an, si je me souviens bien, c'est des choses que j'ai lues ou écrites il y a longtemps. Mais il y a un entretien à Radio-Canada, Judith Jasmin.
C'est ça, on en a diffusé également un extrait.
Où Breton dit qu'il n'y a pas de peinture surréaliste. Et vous savez mieux que moi que le titre « Le surréalisme et la peinture » est un titre que Breton a choisi par opposition, par contradiction, avec un de ses compagnons qui parlait de peinture surréaliste. Il n'y a pas de peinture surréaliste, il y a le surréalisme et la peinture qui entretiennent des liens complexes, parfois contradictoires.
Mais alors, est-ce que le surréalisme en peinture, ça ne pourrait pas être, par exemple, le tachisme? Ça ne pourrait pas être une abstraction qui se fait comme ça, de façon précisément aléatoire?
Oui, alors vous abordez ici quelque chose qui a hanté Breton dans l'après-guerre à Paris. C'est quand il s'est trouvé face à des mouvements de peinture, des mouvements de la peinture qui quittaient tout à fait les sentiers qui avaient été suivis par les prédécesseurs, et du côté du tachisme, du côté d'une certaine abstraction lyrique. Et il va avoir des relations qui sont, des réactions qui sont parfois contradictoires, d'intérêt. À ce moment-là, il avait comme grand ami un critique d'art, le critique d'art de combat, qui s'appelait Charles Estienne, qui a joué un grand rôle à ses côtés, Avec Charles Estienne, il a notamment tenu pendant quelques mois, presque une année, une page de combat, du journal Combat, qui s'appelait Combat Art. Et la plus grande attention était prêtée à ces mouvements nouveaux, mais avec naturellement des malentendus, des réticences de Breton. Et il n'y a jamais eu cette grande entente avec ces nouveaux aventuriers de la peinture, comme il y a pu avoir avec Masson à une certaine époque, ou avec Tanguy bien sûr.
Est-ce que c'est parce que la figuration n'existe plus du tout? Est-ce qu'il faut une certaine forme de figuration quand même pour faire de la peinture apparentée au surréalisme?
La question de la figuration est une question un peu transversale qui se pose dans tout le débat. C'est-à-dire pour Breton, il y a d'abord dans le tachisme ou dans certains mouvements d'abstraction, il y a une sorte de rupture avec l'histoire. Breton a eu la révélation de Hegel, d'abord par un livre imparfait, mais stimulant, de Benedetto Croce. Et ensuite, à partir des années 26-30, il a beaucoup lu Hegel comme il faut lire Hegel si on veut travailler sur le surréalisme, c'est-à-dire dans ses traductions du 19e siècle. À ce propos, je signale, je suis l'un des seuls êtres vivants à avoir lu tout le cours d'esthétique de Hegel dans ses éditions anciennes, ainsi que la philosophie de la nature, qui est une lecture absolument passionnante. Et il faut bien dire aussi que c'est des éditions qui sont pas très commodes à manier, parce que les traductions imparfaites, bien sûr, même scandaleuses aux yeux des Hegeliens d'aujourd'hui, étaient faites par un Italien qui s'appelait Vera, Augusto Vera, qui était un libéral, un révolutionnaire italien réfugié à Paris, et qu'ils étaient accompagnés d'un commentaire perpétuel, sic. C'est-à-dire que le texte de Hegel, parfois réduit à 3 lignes, était envahi par des notes qui montaient, si je puis dire, qui allaient monter jusqu'en haut de la page, jusqu'à le recouvrir. Et alors j'ai beaucoup lu Hegel, évidemment, ainsi que les commentaires perpétuels, pour faire les notes de la Pléiade, parce qu'il n'y a rien de plus enrichissant que de faire des notes bêtes, en quelque sorte, des notes attentives. Mais on y apprend beaucoup de choses, et on se rend compte combien la pensée de Hegel a sans cesse amené à remodeler celle de Breton, et surtout avec ce contact avec une histoire qui transcende bien sûr l'événementiel.
Et donc justement sur cette question... figuration, abstraction, qu'est-ce que cela produit?
Eh bien, je crois que c'était un débat qui paraissait pour Breton hors de la véritable histoire.
Hein. Et donc, qui ne l'intéressait pas.
Dans lequel il
aimait Kandinsky quand même.
Il n'a jamais réussi à se positionner, même s'il a pu aimer beaucoup des grands peintres comme Gorky, n'est-ce pas, qu'il a découvert en quelque sorte, et dont la destinée tragique ensuite l'a profondément marqué. Mais ça ne l'intéressait pas.
Et Dali, alors, on sait qu'ils se sont séparés à cause des prises de position du fascisme de Dali. Oui. Est-ce que sa peinture, en revanche, intéressait beaucoup Breton? Parce qu'on considère aujourd'hui que c'est de la peinture surréaliste.
Écoutez, dans la correspondance Breton et Éluard, vous verrez qu'il y a beaucoup de débats à propos de Dali, parce qu'Éluard n'a pas l'intransigeance de Breton vis-à-vis des dérives intellectuelles de Dali, parce qu'elles sont plus intellectuelles que politiques. C'est un débat effectivement qui s'est posé pour Breton. Il avait une fascination pour la peinture de Dali, tout en ayant les plus grandes résistances vis-à-vis de certains aspects. On voit bien dans la façon dont Breton s'oppose à la lecture de Bataille, hein, de certains tableaux de Dali par Bataille, et avec une violence extraordinaire. Il a été exaspéré par le mélange d'authenticité et de comédie qu'il y a chez Dali, mais n'empêche que jusqu'à la fin de sa vie, des proches me l'ont répété, il a toujours été fasciné par lui, il n'a jamais exclu de son univers, de l'univers de ses préférences, même si...
Est-ce que vous trouvez que c'est ce qui ressemble le plus à la représentation de l'inconscient, la peinture de Dali?
La peinture de Dali et l'inconscient, c'est difficile, parce que la méthode paranoïa critique, comme vous le savez, elle associe le délire et la maîtrise de la conscience, et enfin Breton a été passionné par cette lecture. Cela dit, le titre, il a consacré un grand texte dans les années 35 à Dali, et c'est un texte qui est nourri, en fait, qui est un peu saturé de la lecture de Jacques Lacan.
Étienne Alain Hubert. On va continuer à parler des écrits de Breton sur l'art et en particulier de tout ce qui concerne la notion d'art magique dans quelques minutes, juste après la chronique de Mayalen Berasategui.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mayalen Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour à vous Mayalen.
Bonjour.
Aujourd'hui vous êtes tout à fait dans le sujet, vous nous parlez de Charles Filiger, un peintre très apprécié d'André Breton dont les œuvres sont exposées à Paris en ce moment à la Galerie Malinx. C'est jusqu'au 22 juin qui était donc Charles Filiger.
Donc c'est un peintre qui a fait ses études d'art à Paris et il fait partie de tous ces petits jeunes qui ont suivi Gauguin en Bretagne. Et donc sa carrière a bien commencé, mais quand Gauguin a quitté la Bretagne en 95 et que tout le monde s'est un peu éparpillé, lui est resté là-bas. Il y a vécu longtemps dans une certaine misère et de plus en plus isolé des milieux artistiques. Donc en fait c'est quelqu'un qui est assez inclassable, qui a quelque chose de très particulier. Il a une période pointilliste, il a une période nabi, il peint beaucoup de sujets religieux, mais c'est aussi quelqu'un qui est homosexuel et qui le vit mal, qui prend de l'alcool, qui prend de l'éther et qui croit plus à rien quand il est désespéré. Donc il a vraiment une pratique artistique très paradoxale et foisonnante. C'est quelqu'un qui est mort complètement oublié et que Breton a été l'un des premiers, une vingtaine d'années après sa mort, à essayer de retrouver vraiment.
Oui, alors comment a-t-il précisément découvert Filiger ?
Alors, il ne l'a pas fréquenté, mais a priori, il en a appris l'existence à la fois par des ouvrages sur Gauguin et surtout par Alfred Jarry, parce que Jarry a consacré un article critique très très élogieux à Filiger. Et donc Breton, vous voulez savoir à quoi ça ressemblait quand même, il est parti en Bretagne, dans les auberges, dans les familles où il avait vécu, il a acheté ses œuvres, il les a fait connaître. Et il avait d'ailleurs un certain nombre d'œuvres dans son bureau. Quand on regarde les photographies chez André Breton, on voit un certain nombre d'œuvres de Filiger qui sont accrochées. Et les collectionneurs de cette époque-là, qui collectionnaient Filiger, s'intéressaient surtout à Filiger à Pont-Aven, à Filiger dans l'entourage de Gauguin. Et Breton, lui, s'intéressait à quelque chose de beaucoup plus tardif, à des carnets qu'on appelait notamment les notations chromatiques, qui sont des œuvres où il y a beaucoup de géométrie, beaucoup d'abstraction. Et il a acquis comme ça toute une série de dessins.
Et qu'est-ce qui le fascinait, selon vous, à ce point-là ?
Ben, c'est compliqué à savoir parce que ça fait partie des gens dont on sait qu'il l'intéressait, mais sur lesquels il n'a pas forcément écrit. Du coup, c'est difficile de savoir ça. Il y a un spécialiste de Filiger qui s'appelle André Cariou, qui est la personne par laquelle je vous raconte tout ça en vrai, qui pense que la réponse est aussi à chercher du côté de l'occultisme. Parce qu'en fait, Filiger a appliqué en peinture des principes qui avaient été développés par quelqu'un qui s'appelle Saint-Yves d'Alvèdre, qui avait toute une vision à la fois politique et artistique du monde, et la partie artistique n'était pas éditée au moment où Filiger l'a utilisée. Et Breton, a priori, connaissait Saint-Yves d'Alvèdre et a repéré ça chez Filiger. Ce qui fait que c'est vraisemblablement ça qui l'a intéressé, et Saint-Yves d'Alvèdre, c'est quelqu'un que Breton avait lu, mais dont le nom a disparu en cours d'édition de L'Art Magique. Donc, a priori, ça veut dire qu'il avait un rapport compliqué à cet auteur. Et en plus, le mécène de Filiger était aussi lié à un mouvement des Rose-Croix qui était à la fois artistique et occultiste. Bref, ceci est un appel aux historiens. Si on pouvait avoir une petite histoire politique de l'occultisme au XIXe siècle, ce serait vraiment bien. Ça manque un peu.
Voilà. Ok. Alors, Charles Filiger, hein, donc on prononce comme ça.
Je ne sais pas.
C'est à la Galerie Malinx à Paris, dans le 8e.
C'est
jusqu'au 22 juin. Merci beaucoup, Mayalen Berasategui. On retrouve votre signature dans les colonnes du Nouveau Magazine Littéraire. De la compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture, troisième épisode de notre série consacrée à André Breton. Nous parlons aujourd'hui de ses écrits sur l'art avec Étienne Alain Hubert qui les a présentés dans la bibliothèque de la Pléiade.
Certains esprits dont je suis ont peine à concevoir un beau qui ne soit à quelques degrés magique. Il n'empêche qu'un tel magique ne peut passer que pour une propriété annexe, en quelque sorte passive, et toute réflexe du beau. De toute évidence, une autre démarche est, dans un cadre qui déborde celui de l'art, de prétendre non plus au beau, mais au magique, d'accorder résolument la primauté au magique sur le beau.
André Breton, dans une archive datant de 1958. Qu'est-ce que c'est que l'art magique pour Breton, Étienne Alain Hubert? C'est une notion particulièrement problématique.
Oui, c'est une notion problématique parce que, comme on le disait tout à l'heure, Breton était très tenté par ce volume qu'on lui proposait de faire sur l'art magique, qui aurait été le premier d'une sorte d'encyclopédie de l'art, au sens profond du terme, qui était ordonnée par un critique d'art, poète, écrivain, qui s'appelait Marcel Briand. Et comme on va le voir, le volume aurait dû paraître le premier, il est paru le dernier, parce que Breton a eu une sorte de blocage sur la notion.
Et pourtant, c'était une notion qui, précisément, l'intéressait.
C'est une notion qui l'intéressait, d'autre part qu'il avait été très frappé, évidemment, par les horizons magiques de l'art des Esquimaux, de l'art des Indiens, de certains autres, de l'art de l'Océanie, etc. Mais il s'est trouvé, il y a un texte qui n'est pas dans, qui était un papier qu'on avait retrouvé chez lui, un dossier sur l'art magique. Il y avait une page qui aurait probablement dû prendre place soit dans l'art magique, soit en tête du questionnaire de l'art magique. À mes dépens, dans toute la rigueur du terme, j'ai dû me convaincre que vouloir pousser une reconnaissance sur le terrain de ce qu'on peut appeler l'art magique comportait tout au moins pour moi des risques considérables. Cela va si loin qu'à l'heure où je devrais finir d'en dresser les cartes comme d'un cœur léger, parfaitement sûr de moi, j'en avais pris l'engagement, je suis contraint de faire machine arrière si je veux que sous mon pas, le sol ne se dérobe pas de plus en plus.
C'est vrai que le sol a failli se dérober sous ses pieds, tellement cette notion d'art magique disparaissait au fur et à mesure qu'il croyait l'attraper, à tel point que ça le plongeait dans les affres les plus pénibles,
oui,
et peut-être même jusque dans la dépression.
L'affre que vous reprenez, il est permis de parler d'affre dans ces conditions. Il m'apparaît de jour en jour plus téméraire de m'être porté vers elles en me faisant fort de les pénétrer pour les circonscrire et les relier. Donc il y a une sorte de vertige devant l'éparpillement se creuse sous ses pas lorsqu'il veut avancer dans ces domaines évidemment très fluctuants, tant plus que ce sont des mots qui sont toujours connotés, qui sont toujours liés à des lectures, à des positions, à des controverses d'ethnographes, etc.
Alors, cette idée de l'art magique, dans la commande qu'on lui fait, c'est l'idée des arts premiers, c'est ça?
Écoutez, il y avait l'art magique, premier tome. Le second tome, c'était l'art religieux. Troisième volume, l'art baroque. Et quatrième volume, l'art classique, à quel s'ajoutait un cinquième volume, l'art pour l'art. Bon, vous voyez, c'était des grandes notions englobantes, évidemment, dont la scientificité n'était pas la qualité première.
Mais il était vraiment la personne à qui il fallait demander ce volume, parce que il a, avant tout le monde, compris tout l'intérêt de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers.
Alors, bien sûr, il avait collectionné très tôt les arts premiers. Vous savez qu'il raconte dans Nadja que le premier objet qu'il ait acheté, c'est une petite statuette de l'île de Pâques, qui a disparu avec lui. Et qui est photographié dans Nadja.
Et puis il avait compris les demoiselles d'Avignon.
Il avait compris
aussi,
les demoiselles d'Avignon.
Qui sont inspirées à Picasso par des masques.
Alors ce n'est pas cet aspect-là qu'il frappe dans les. Ce n'est pas le rapport avec l'art primitif, avec les arts africains notamment, qui le frappe. C'est autre chose. C'est une sorte. Ce sont des personnages en quelque sorte hors de l'histoire et qui en même temps créent l'histoire, de grandes figures anthropomorphes. Et pour lesquels Breton, qui n'a jamais écrit une ligne, qui n'a jamais publié une ligne sur les demoiselles d'Avignon, s'explique dans une fameuse lettre à Jacques Doucet, dans des lettres assez visionnaires, pour convaincre Jacques Doucet d'acheter le tableau.
Donc Jacques Doucet, ce couturier qui a employé pendant plusieurs années André Breton, afin qu'il l'aide à se constituer une collection d'art. Alors, la question de l'art magique, c'est aussi la question de la documentation et la question de la méthode. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Vous avez évoqué à l'instant, Étienne Alain Hubert, l'enquête. Oui. Donc cette enquête, c'est un questionnaire qui avait été adressé à un certain nombre de personnalités pour leur demander ce qu'ils considéré comme de l'art magique.
Voilà. Et alors, donc, Breton a rédigé le texte d'une enquête sur l'art magique, qu'il a envoyé à toutes sortes de personnalités. D'ailleurs, on n'a pas pu reproduire les résultats de l'enquête, les réponses à l'enquête en totalité dans la Pléiade, parce que ça occupait trop de place. On a simplement privilégié quelques dizaines de réponses, mais dans le volume, cela représente une soixantaine, 70 feuillets sur papier différent. Pour me rappeler, dans l'édition originale, c'est un papier jaune. Et un petit corps de caractère où des personnalités très diverses du monde de la science, du monde de la littérature.
Donc Heidegger, Blanchot, mais aussi Lévi-Strauss.
Des philosophes, des spécialistes de l'occultisme, comme René Allot, par exemple, et qui ont répondu à cette enquête. Mais je dois dire que faire la synthèse des réponses est absolument terrifiant. Breton s'est essayé dans l'introduction, mais on a effectivement une sorte de nouvel espace vertigineux dont la prolifération de toutes ces notions devient impossible à dominer.
Et quelle est l'idée de cette démarche? Est-ce que c'est une démarche proprement surréaliste?
Écoutez, il y avait, oui, on peut songer aux enquêtes surréalistes, mais enfin les enquêtes surréalistes étaient faites auprès d'un personnel humain, si l'on peut dire, qui était beaucoup plus réduit. Là, une sorte de grand effort de recension, en quelque sorte comme si Breton, me semble-t-il, dans son interrogation vertigineuse sur l'art magique, espérait recevoir la lumière d'ailleurs. Bon.
À l'instant, Étienne Alain Hubert, d'un spécialiste de l'occultisme qui avait été interrogé par Breton dans l'enquête sur l'art magique. Quelle est la place précisément de l'ésotérisme, de l'occultisme dans son rapport avec l'idée d'art magique? On sait que c'est très important pour lui.
Alors, l'étude du Breton vers l'occultisme est une étude très complexe à analyser. Il y a une passion de la découverte de l'occultisme. Vous savez qu'il va, chaque semaine, ou chaque quinzaine plutôt, écouter les conférences de son ami René Allot, qui avait lui associé de géographie, qui avait un grand retentissement sur l'occultisme, sur les initiés, etc. Mais son intérêt est toujours modelé par son refus de tout mysticisme religieux, par ses choix fondamentalement anti-religieux, et il se rend compte que, évidemment, les spécialistes de l'occultisme n'ont pas toujours les mêmes réticences que lui. Alors, on a une attitude d'intérêt passionné. Peut-être est-il davantage attiré par les aspects poétiques de l'occultisme ou par l'imagerie de l'occultisme. Il faut avouer que les livres d'occultisme sont généralement absolument fascinants par leur simple illustration, mais avec toujours ce refus de s'engager dont il pourrait ressembler à une révélation. Par exemple, son attitude vis-à-vis d'un grand contemporain qu'il a cité d'ailleurs quelquefois, qui est René Guénon. Mais chez René Guénon, il y avait une propension à faire des disciples, hein, à répandre, à enseigner, à répandre une doctrine. Et Breton a toujours été révulsé par cette idée.
Donc c'est plus l'ésotérisme comme une manière de briser les causalités linéaires habituelles pour réfléchir autrement, pour voir le monde différemment.
Voilà, exactement. C'est brider les causalités linéaires, c'est un point important. Et ce qui fera que Breton a été passionné également par l'astrologie, c'est une chose qui nous surprend, en 1928, à l'aide de deux ou trois manuels qu'il avait achetés.
Il faisait quand même les horoscopes de ses proches.
Il fait les horoscopes de ses amis, il fait l'horoscope d'Éluard, il fait son horoscope, il fait l'horoscope de personnages vivants, parfois il fait l'horoscope de personnages morts. C'est d'abord une façon pour lui, il faut bien le dire aussi, de chercher une échappatoire aux difficultés du présent. C'est le moment où le groupe surréaliste connaît des convulsions invraisemblables, où sa vie privée, depuis la séparation avec sa première épouse, devient très compliquée. Et où c'est des difficultés matérielles l'assiègent de toutes parts. Et il va chercher une sorte de dérivatif dans la fabrication de ses horoscopes, il y avait deux ouvrages de référence, dont il recommande la lecture à Éluard et l'usage à Éluard, et qu'il avait sur sa table. Et ce qui l'intéresse dans ces horoscopes, c'est que l'astrologie fait intervenir des quantités de réseaux de causalité. Ce n'est pas A donne B, donne C, donne D, mais c'est une quantité d'enchaînements, c'est pas qui se côtoient, qui se mêlent,
et qui sont selon,
évidemment, les interactions des astres. Enfin, moi, je ne connais rien à l'astrologie, mais on peut être fasciné, évidemment, par cette multiplicité d'ascendants, de contradictions, de controverses, une sorte de monde qui n'aurait pas perdu tout contact avec la causalité, mais une causalité qui est tellement multipliée, qui est tellement fourmillante, qu'elle devient, en quelque sorte, une sorte d'image sublimée du hasard.
Alors, quel pourrait être, Étienne Alain Hubert, puisqu'on approche tout doucement de la fin de cette émission, le sens profond du surréalisme en art? Lequel serait-il pour Breton et puis peut-être pour d'autres surréalistes? Parce qu'on a le sentiment qu'au fur et à mesure, il va y avoir des divergences quand même de point de vue sur cette question-là.
Pour Breton, c'est se rapprocher de plus en plus de ce qu'il appelle, dans une formule qui est parfois mal comprise, le modèle intérieur, et dont il fait le...
Par opposition au modèle qu'on reproduit.
À toute représentation.
Donc au réalisme, finalement.
C'est ça, à tout réalisme, à toute représentation des apparences. C'est un modèle intérieur, c'est-à-dire que l'art doit faire sortir quelque chose de l'intérieur, du profond. Et d'ailleurs, on est frappé dans les textes de Breton par l'importance des verbes suggérants. La surrection, l'apparition, le dévoilement. L'art nous révèle des choses qui éclatent sur une surface et qui viennent du profond de l'inconnu. Le freudisme a servi d'ailleurs à certains moments un langage d'expression à Breton, un moyen d'expression à Breton pour cette attention à ce qui vient de l'intérieur, et puis il s'est créé son langage propre.
Mais est-ce qu'on ne peut pas retrouver tout de même d'autres courants qui ont cette même démarche anti-réaliste, ou du moins qui ne soient pas réalistes sans être contre?
Quand on voit évidemment le nombre de... Il y a beaucoup d'artistes qui sont présents dans le surréalisme et la peinture, puisque Breton était toujours frappé parce qu'il lui apparaissait comme neuf et qui était en quelque sorte ennobli par des qualités d'indépendance par rapport à la tradition.
C'est pour ça qu'il aimait d'ailleurs les jeunes peintres.
Comme avec les jeunes poètes, il était d'une ouverture extraordinaire.
Breton, ça le rendait heureux. On a l'impression que découvrir de jeunes peintres le rendait heureux.
On est frappé parce que la correspondance de Breton, reçue par Breton, grâce à Elisa Breton et à Breton lui-même, Elisa Breton était entièrement déposée dans la bibliothèque Jacques Doucet, où François Chapon l'avait classé avec le soin qu'on connaît. Et là, on est frappé par le nombre de correspondants, parfois insignifiants, auxquels il prenait la peine de répondre.
Et dont il parle également, parce qu'il reprend, et on le lit très bien dans votre Pléiade, des critiques, enfin pas des critiques, mais enfin de quoi, des recensions d'œuvres d'artistes totalement inconnus.
Absolument, vous avez bien raison, des recensions d'œuvres ou d'artistes ou bien qui ont disparu de la notoriété, ou bien qui ont eu des carrières très éphémères.
Mais qu'est-ce qui peut faire la différence entre le surréalisme en peinture et d'autres mouvements de l'histoire de l'avant-garde, comme, je ne sais pas, l'art abstrait en général, l'expressionnisme? Quelle est la spécificité du surréalisme en peinture?
C'est-à-dire que pour lui, pour Breton en tout cas, le surréalisme avait un accord privilégié avec l'histoire. dans cette vision hegelienne, qui parfois était marxisante, de Breton, il faut que l'œuvre soit en accord avec l'histoire profonde de l'esprit.
Donc il faut la situer.
Il faut, c'est un terme qui revient très souvent.
Et en même temps,
il y a des œuvres qui ne sont pas situées.
L'histoire
et qui
de
ont
l'art,
le malheur
alors,
de ne pas
étrange.
Être situées. Et au sens profond du terme, c'est évidemment pas dans un système de courant, d'influence ou de contre-influence, mais situées au sens le plus fort du terme dans l'histoire. Et Breton, encore une fois, a été profondément marqué par la lecture du cours d'esthétique de Hegel. Alors à ce sujet, je rapporte une chose un peu singulière. Quand on veut s'interroger sur des notions comme l'humour, l'humour noir, on ne peut pas saisir vraiment le sens de la notion si on n'est pas allé voir les vieilles éditions du cours d'esthétique de Hegel.
Voilà,
parce
comme
que
vous le mentionniez
les derniers
tout
chapitres,
à l'heure.
L'art romantique. Et puis après, le dernier chapitre de la romantique, il y a ce qui vient après la romantique, et c'est l'humour. Hein. Voilà. L'humour, c'est la fin de l'art. Hein.
Merci beaucoup, Étienne Alain Hubert. On conseille à nos auditeurs d'aller voir cela de plus près. Je rappelle que vous êtes maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne, co-responsable de l'édition des volumes 3 et 4 des œuvres complètes d'André Breton en Pléiade. Beaucoup d'autres livres de vous qu'on pourrait signaler et qu'on signalera d'ailleurs sur notre site comme circonstance de la poésie aux éditions Kingsick. Et vous avez également édité en 2016 André Breton, Lettres à Jacques Doucet, 1920-1926 chez Gallimard. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Jeanne-Pin, Garance Mazelier et Alexandre Dang. Demain, suite et fin de notre série Breton, nous parlerons du livre Nadja, avec d'abord la psychanalyste Christiane Lacote-Détriba, puis avec le romancier Serge Filippini, tout de suite Jacques Bonafé.
Bonjour, en ce mercredi, nous allons tout de suite donner la parole à Jean-Claude Pirotte pour son point sur l'actualité. L'univers est universel, un peu comme l'eau de vaisselle. Et le monde est mondial, on dirait la fin du bal. Quant à la Terre, elle est terrestre et de moins en moins intime. Les océans sont maritimes, on consomme ce qu'on y verse. Les marins dans le cambouis pourront bientôt marcher sur l'eau. Les terriens regardent les flots inonder leur dernier boui-boui. Eh bien, merci Jean-Claude. Cela se trouve dans À joie. Nous apprenons aussi que nous aurons toujours la roue de secours. Notre Père aux cieux répare les cieux. J'entends ce qu'ils disent, l'écho du bitume, la ronde posthume et les chants d'église. Nous roulons toujours sur le tapis vert, la roue à l'envers, tourne nuit et jour. Platane meurtri, vieux ormes malades, frères invalides, en vos paradis, fin de la balade. Pirotte, Jean-Claude Pirotte, nous allons sombrer si on se repose sur vous pour la question dérèglement climatique. On va sombrer. Je vous propose de prendre un extrait de ces hommages aux auteurs. Cet hommage à Raymond Queneau, de Sainte-Adresse à Tancarville, j'ai promené ma mort civile par les rues où vont les arpètes, Saint-Queneau, que j'avions l'air bête. Dans mon cœur y avait un galet, dans mon œil un soupçon de lait, comme dans le thé d'un Anglais. La vie était saumâtre et laide. Ah, nous recevons un message d'actualité de Raymond Queneau, pardon de vous interrompre, Pirotte, qui tombe dans le thème « Les mouches d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois. Elles sont moins gaies, plus lourdes, plus majestueuses, plus graves, plus conscientes de leur rareté. » Elles se savent menacées de génocide. Dans mon enfance, elles allaient se coller joyeusement, par centaines, par milliers, peut-être sur du papier fait pour les tuer. Elles allaient s'enfermer, par centaines, par milliers, peut-être dans des bouteilles de forme spéciale. Elles patinaient, piétinaient, trépassaient, par centaines, par milliers, peut-être elles foisonnaient. Elles vivaient maintenant, elles surveillent leurs démarches. Les mouches d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois. Merci, monsieur Queneau. Un bien beau poème qu'on devrait réciter dans toutes les écoles. Retour à Jean-Claude Pirotte, page 180. Dernière nouvelle des mouches. Écoutez, elles sont perdues. C'est aussi que sonnent les cloches de l'hiver sur la vigne nue. La tégénaire qui ne bouge, ça c'est une araignée. La tégénaire qui ne bouge pas, fidèle à son coin de mur, me surveille quand je me couche sous son nid qu'un souffle remue. Et puis je rêve et puis je mue, je m'éveille obscur et velu, araignée verte, araignée rouge, la lune rouge me salue, la neige est verte et la peinture s'écaille sur les murs du songe.
Jacques Bonafé, merci.